Vous écoutez, on lit pour vous.
Les Z contre l'IA. Un texte de Marissa Grosgué, paru le 31 mai 2026 dans La Presse. La génération Z est celle qui utilise le plus l'intelligence artificielle, mais elle ne l'aime pas pour autant. Bien au contraire. Performance scolaire, marché du travail, vie privée, soucis environnementaux. Les sources de réticence sont multiples. La presse a interrogé 4 jeunes de 18 à 25 ans sur leur rapport houleux à l'IA. Aux États-Unis, durant la présente saison de remise de diplômes, une tendance est née. À chaque mention de l'IA durant les cérémonies, des étudiants eurent l'orateur. Des vidéos circulant en ligne montrent que le phénomène s'est répandu dans tout le pays. De l'Université de la Floride centrale à celle de l'Arizona, en passant par l'Université d'État du Middle Tennessee, de nombreux jeunes adultes sont mécontents. La réaction de ces étudiants illustre le courant actuel de réticence face à l'IA, parmi la génération qui l'adopte aussi le plus massivement. Pour cette génération, il n'est pas question d'être technophobe ou technophile. On voit sociologiquement, qu'ils sont technophobes-philes, nous dit Jonathan Roberge, chercheur et professeur titulaire à l'Institut national de la recherche scientifique, INRS. Cette contradiction interne et cette ambivalence sur ses épaules, pour cette population qui a grandi avec la technologie, ce n'est pas rien, constate-t-il. Une récente étude de l'Université Harvard et de la firme Gallup démontre que 74 % des jeunes Américains utilisent un agent conversationnel au moins une fois par mois. C'est plus que n'importe quel autre groupe d'âge. Mais 79 % des répondants estime aussi que l'IA rend les gens plus paresseux et 65 % disent qu'elle fait la promotion de la gratification instantanée. Je trouve ça complètement inutile d'utiliser quelque chose qui fait tout à notre place, soulève Emma Hayward Bell, âgée de 20 ans. L'étudiante en biologie a noté un grand contraste entre sa première session universitaire et sa deuxième, qui vient de se terminer. La question de l'IA se pose maintenant partout, dit-elle, que ce soit par rapport à la meilleure façon de l'intégrer à ses études ou à son rôle dans de futurs emplois. Un de ses professeurs a même décidé cette session de créer un examen avec l'aide de l'outil génératif. Ainsi, les élèves qui révisaient en utilisant l'IA pour imaginer des questions, à partir de leurs notes, auxquelles ils pourraient avoir à répondre, semblaient avoir une longueur d'avance sur les autres. C'est vraiment poche. Puisque moi, je refuse de l'utiliser. Je suis forcément désavantagée, dit Emma Hayward Bell, étudiante en biologie. La jeune femme se soucie des impacts environnementaux engendrés par l'usage de cette technologie, dont la consommation extrême d'eau et l'empreinte énergétique et carbone. La cause environnementale inquiète particulièrement les quatre jeunes de 18 à 25 ans interviewés par la presse. La question de la protection des données, celle de la perte d'occasion d'emploi et celle de la perte d'autonomie intellectuelle les alarment également. L'envie de ne pas avoir de robot qui fait les choses à notre place nourrit les réticences pour ceux qui voient dans l'IA un frein à leur inventivité, constate le sociologue Jonathan Roberge. Il identifie également une crainte politique. Les jeunes ne sont pas fourbes. Ils peuvent voir que l'IA a des effets délétères sur la démocratie, par exemple quand elle est utilisée comme outil de désinformation. L'investissement massif dans l'intelligence artificielle laisse également un goût amer à une jeunesse qui se soucie de la santé de sa société. Note Clémentine Fruchard-Muller, chercheuse postdoctorale en sciences de l'information et de la communication à l'Université du Québec à Montréal, UQAM. On est face à une question de valeur, dit-elle, quand on voit qu'on n'a pas les sous pour certains problèmes, mais qu'on peut en sortir d'un chapeau pour financer l'IA. Anxiété et injonction. Le mois dernier, une autre recherche menée par la firme Gallup a démontré que le rejet de l'IA par la génération Z s'intensifie. Seulement 18 % des personnes sondées se disaient optimistes par rapport à cette technologie, contre 27 % dans le coup de sonde mené une année avant. Dans la même période, le pourcentage de jeunes estimant que les risques liés à l'IA sont plus nombreux que les bénéfices a augmenté de 11 points, atteignant les 48 %. De moins en moins enthousiaste, une chute de 14 %, la génération Z américaine se dit plutôt en colère, 31 %, et anxieuse, 42 %, par rapport à l'IA. Ces observations trouvent écho au Québec et au Canada. Dans les sondages internationaux sur le niveau d'anxiété par rapport à la technologie et l'IA, le Canada est toujours au premier plan, note Jonathan Roberge. Dans les dernières années, le discours de l'industrie et des politiciens fait la promotion de l'intelligence artificielle, mais les craintes de la population sont très peu écoutées, estime l'expert. Pourtant, il y a beaucoup d'ambiguïté et elle est exacerbée chez les jeunes, qui savent dans quoi ils vont être pris. L'injonction à avoir recours à l'IA est forte. Julien Desmarais, 25 ans, voit des objections éthiques à l'utilisation de l'IA, tant par rapport aux coûts économiques qu'aux coûts écologiques. L'étudiant en anthropologie à l'Université de Montréal s'en est toutefois déjà servi, pour de la recherche ou pour faire des synthèses d'articles. Dans l'avenir, il sait que cela pourrait lui nuire de ne pas savoir comment l'utiliser. Alors, il a appris à maîtriser l'outil, même s'il s'oppose à la logique de productivité qui y est rattachée, selon lui. Les jeunes plus indignés. Pascal termine son DEC en graphisme. Dans son domaine, pas une journée ne se passe sans qu'on parle de l'IA, devenu un outil largement intégré, surtout dans la conception web. Si l'utilisation de l'IA ne fait pas partie de sa pratique, plus manuelle, Pascal se fait inciter à l'assimiler, en grande partie pour des raisons de productivité. On parle beaucoup d'argent et de comment en faire plus. C'est comme ça que c'est amené, dit Pascal, qui s'inquiète pour l'avenir sur le marché du travail. Je considère que le courant mainstream, en ce moment, c'est la productivité et l'IA, et que ça fait partie du contre-courant artistique de ne pas l'utiliser. Historiquement, les étudiants sont à l'avant-scène de l'effort collectif pour remettre en question l'ordre établi. Et certains ne sont pas d'avis que l'IA est un outil d'amélioration du projet de société, souligne Jonathan Roberge. À 18 ans, Sandrine Vigneault est convaincue que l'impact environnemental de l'utilisation de l'IA sur les ressources naturelles n'en vaut pas la peine. J'ai beaucoup d'inquiétudes, parce qu'à un moment, il sera trop tard. Pour cette étudiante en sciences naturelles au Cégep, la possibilité d'une carrière en recherche est moins attrayante, en partie parce que l'IA risque d'annihiler certains emplois, croit-elle. À l'heure actuelle, il est difficile de savoir comment l'IA continuera d'être intégrée à nos vies. Une incertitude qui représente une source d'anxiété en soi, soulève Jonathan Roberge de l'INRS. Pour Clémentine Fruchard-Muller, ceux qui s'opposent à l'IA, quel que soit leur âge, n'ont pas besoin qu'on documente leur opposition, mais plutôt qu'on alimente leur choix de solutions de rechange. Il est question d'estime de soi. Dans un monde régi par la performance et la compétitivité, par exemple, pour quelqu'un qui pense qu'il ne sait pas écrire et qu'il doit donc se fier à l'IA, il faut défaire cette façon de penser. Le problème en ce moment pour les jeunes, c'est qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur et ils n'ont pas l'impression d'avoir d'autre choix. Il existe, croit-elle, des options de rechange à ces milieux où l'IA est privilégiée, même si ce sont des terrains minoritaires et moins visibles. L'IA n'a pas à être démonisée en tant qu'outil, puisque ses avantages existent bel et bien, dit-elle. Mais pour ceux qui préfèrent s'en distancier, il suffit de se déconnecter, de regarder autour de soi et d'explorer. C'était « Les aides contre l'IA », un texte de Marissa Grosgué, paru le 31 mai 2026 dans La Presse.
DSN, le nez dans le téléphone pour mieux vous soigner. Un texte de Paul Vermeau-Desroches, publié le 13 mai 2026 dans le Nouvelliste. L'infirmière rigole dans les couloirs du sixième étage de l'hôpital de Shawinigan en pensant à cette anecdote. Quatre jours après l'implantation du dossier santé numérique, DSN, partout au CIUS de la Mauricie et du centre du Québec, c'est là une petite remarque que le personnel soignant a souvent envie de passer aux usagers. On a peut-être le nez dans notre téléphone, mais c'est pour mieux vous soigner. Et surtout, c'est sûrement mieux que d'avoir le nez collé sur une archaïque feuille de papier. Une feuille de papier que l'on aurait ajoutée dans le cartable du patient. Un cartable rangé dans un classeur tournant qui prend la moitié de ce comptoir du poste de garde. Et malheur au médecin qui cherchera le cartable si une infirmière vient de quitter avec le dossier. Là commence la course au papier. sur une semaine de travail, ce n'était pas rare que je perde 1 à 2 heures juste à chercher des dossiers, des plaquettes, de l'information, des feuilles. La transformation numérique, on était rendu là. Pour le patient, pour être capable d'en voir plus, résume Léa Sancartier, médecin de famille qui assume la garde de 7 semaines à l'unité de courte durée gériatrique. Bientôt, ce classeur à cartable aura complètement disparu du poste de garde. On se contentera d'avoir chacun son téléphone dans la poche arrière. Un étage plus bas, l'infirmière Marie-Lou Girard entre dans la chambre du patient. Avec l'accord de ce dernier, on fera une petite démonstration du DSN pour la prise de signes vitaux. On prend d'abord sa pression, puis son taux d'oxygène dans le sang. Les yeux bien fixés sur le cellulaire, les données entrent en temps réel dans le dossier de l'homme. Pas besoin d'attendre que la machine finisse son travail pour griffonner le papier et aller le reporter dans le cartable. De Latuc à Drummondville, tout le personnel soignant peut savoir, en temps réel, que la pression de ce patient est, comment, trop haute? Le patient rigole. Pas étonnant qu'il soit un peu stressé, avec une caméra, un appareil photo et 3 journalistes qui viennent d'entrer dans sa chambre pour le voir pendant qu'on lui prend sa pression. Petit détour au poste de garde. Ne paniquez pas avec le patient de la 3e chambre à droite. Sa pression a monté un peu, mais c'est probablement la faute des médias. Au détour du corridor, l'infirmière Maud Baker continue sa journée de travail, sachant aussi qu'elle pourrait être appelée à tout moment pour venir aider un collègue. Elle fait partie des super-utilisateurs, ces employés qui ont été davantage formés pour devenir les référents sur le terrain afin d'aider les collègues. À ce moment-ci, elle n'est pas surchargée de demandes. Elle a le temps aussi pour ses patients. « Ah, le petit chien vient d'apparaître », a-t-elle dit à sa patiente peu avant de me rencontrer. « Le petit chien ?» Oui, le logiciel a aussi été conçu pour ne pas être trop aride avec ses usagers. Quand il confirme que la posologie du médicament est la bonne, il vous enverra un pouce vert. Et quand le médicament aura été confirmé comme administré au patient, c'est un petit chien qui viendra vous le dire. Faut bien rigoler un peu aussi, à travers ce déploiement qui transforme la vie de tout le milieu de la santé dans la région depuis samedi dernier. Car tout n'est pas encore parfait. L'inverse aurait été surprenant, d'ailleurs. On navigue encore à travers la plateforme en essayant de bien l'apprivoiser. On subit parfois quelques ralentissements. On doit apprendre à composer avec une technologie pour laquelle le niveau d'aisance est tellement différent d'une personne à l'autre. Ce n'est pas intuitif. Ça prend beaucoup de formation pour se l'approprier. C'est très puissant comme système. Il faut mettre beaucoup de temps pour être efficace. On n'est pas encore là, l'équipe médicale, mais chaque jour, on devient de plus en plus efficace. On espère bientôt surpasser notre capacité d'avant. Le logiciel pourra tout de même aider le personnel médical en détectant, grâce à l'intelligence artificielle, des anomalies, des erreurs ou des problèmes qui pourraient survenir dans le dossier du patient. Informé de cela, le soignant, avec son jugement clinique, pourra lui-même prendre la bonne décision en fonction de la réalité qu'il a devant lui. Pour soutenir toute cette équipe, un centre local de commandement est en poste à Shawinigan, avec 10 techniciens prêts à répondre à toute demande, en plus de 3 employés de la firme Epic qui déploie le système. Ils seront en support constant à ce centre de commandement, prévu pour œuvrer à temps plein pendant les 5 prochaines semaines. Mercredi matin, le CIUS MCQ confirmait qu'en chirurgie, 86% des volumes habituels étaient actuellement réalisés, ce qui était davantage que prévu dans le contexte du déploiement. Des 30 000 utilisateurs potentiels, 21 500 sont déjà connectés au DSN, nous indique-t-on. Seulement lundi, 32 714 ordonnances avaient été entrées directement par des médecins. 7 232 messages de clavardage sécurisés avaient été envoyés et 117 chirurgies ont été documentées dans le DSN. Il y a aussi les patients, avec qui le personnel n'a jamais cessé d'avoir des interactions. Les patients à qui, au terme de ce déploiement, on pourra probablement consacrer davantage de temps en ayant délaissé la paperasse. Les patients qui, visiblement, sont plutôt collaborateurs dans tout ça. 4 jours après le déploiement, on entre dans la chambre des patients et ils nous disent « OK, scannez mon bracelet ». Ils le savent. C'était positif, la réponse des patients, confie l'infirmière Pamela Beauregard, qui a vécu les premières minutes du déploiement samedi. La poussière retombe donc, 4 jours après la mise en service du DSN, pour faire place aux nouvelles habitudes qu'on apprivoise de plus en plus. Ce n'est peut-être pas encore parfait, mais on travaille pour s'en approcher. Au fait, au milieu de cette immense transformation numérique, plus de 40 bébés ont vu le jour depuis samedi matin dans les hôpitaux de la région. Comme quoi, transformation numérique ou pas, la vie, elle, continue. C'était DSN, le nez dans le téléphone pour mieux vous soigner. Un texte de Paul Vermeau-Desroches, publié le 13 mai 2026 dans le Nouvelliste.
Le Titanic de la santé, un texte signé par l'économiste Pierre-Carl Michaud, publié dans l'actualité édition d'avril 2026. Vous êtes découragé par l'état du système de santé? Contrairement au Titanic, on a eu le temps de voir venir l'iceberg. Mais aujourd'hui, il est droit devant. C'est vrai, la prochaine décennie sera difficile. Que voulez-vous? Le Québec vieillit. D'ici 10 ans, 360 000 personnes passeront le cap des 75 ans. Ce vieillissement pousse la croissance des dépenses, même dans le scénario le plus optimiste, au-delà de 4 % par année, pour maintenir les services actuels. Un objectif que semble écarter le plan budgétaire de 2025, puisqu'il table sur environ 2 % de croissance annuelle pour les 3 années à venir. Pourtant, la question se pose. Faut-il vraiment investir davantage en santé? Le Québec y consacre déjà 13 % de son PIB. C'est bien au-dessus de la moyenne de 9 % de l'Organisation de coopération et de développement économique. Or, le Canada est largué en matière de performance et de satisfaction de la population. Selon le bilan de l'OCDE, en 2025, 50 % des Canadiens étaient satisfaits de l'accès au système de santé contre 64 % en moyenne dans l'ensemble des pays membres de l'organisation. Voilà qui est frustrant, surtout quand on sait que plusieurs pays font mieux pour moins cher. Les Pays-Bas, par exemple, consacrent environ 10 % de leur PIB à la santé, avec des résultats nettement meilleurs en fonction de divers indicateurs, notamment l'accès. 3 points de PIB de moins qu'au Québec, c'est énorme. À notre échelle, cela représente à peu près 19 milliards de dollars par année, soit près de 30 % du budget de la santé. Que font-ils donc différemment? Les Néerlandais participent à un régime mixte, à la fois public et privé. Chacun doit choisir un assureur et paie une prime en échange d'une couverture pour les soins. Tous versent aussi une contribution santé au gouvernement. Ce financement public est ensuite redistribué aux assureurs selon une mesure de l'état de santé de leur clientèle, ce qui évite que les assureurs refusent les personnes en mauvaise santé. Les patients paient directement une partie des coûts, avec une franchise maximale d'environ 600 $ par an. Les visites chez le médecin de famille n'y sont pas assujetties. Bien sûr, les citoyens à faible revenu reçoivent un soutien accru. Les assureurs se font concurrence et négocient des tarifs de services avec les hôpitaux, tous privés, mais sans but lucratif, ce qui réduit les coûts. Les médecins de famille, pierre angulaire du système néerlandais, prenaient en charge presque toute la population des Pays-Bas en 2025, alors que les gens y sont plus nombreux qu'au Québec, où à peine 72 % de la population avait un médecin de famille l'an dernier. Rien n'est parfait, et les Néerlandais se plaignent aussi. Mais à se comparer, ils se consolent. Pendant ce temps, au Québec, plusieurs acteurs tirent la couverture déjà trop courte de leur côté. Cette incapacité à mener des réformes en santé, alors qu'on réussit dans d'autres domaines, par exemple avec le système de retraite, est troublante. Selon moi, il faut convier à une grand-messe les dirigeants du réseau, les représentants des médecins et des infirmières, ainsi que toute la classe politique. Un voyage autour du monde s'impose, même virtuel, pour élargir nos horizons. On n'a pas à se réinventer, mais on doit regarder ce qui se fait ailleurs. Sachez toutefois que, même si on s'entendait pour mener une réforme en profondeur au Québec, le fédéral aurait son mot à dire, car les transferts en santé, 12 milliards en 2025-2026, sont conditionnels au respect de la loi canadienne sur la santé, crie proscrit, ce que bien des pays ont mis en place. Cette loi est un obstacle à toute réforme. Comment? Elle déclare l'État assureur unique, ce qui empêche la concurrence entre assureurs. De plus, elle empêche les provinces d'imposer des franchises pour les services assurés au public. Et elle s'avère floue en ce qui concerne le recours à d'autres fournisseurs de services que l'État. Le fédéral a ainsi une grande latitude en matière d'interprétation et peut se donner le beau rôle, y compris en réduisant ses transferts de manière punitive, ce qu'il a rarement fait jusqu'à présent. Dans la tempête sur le pont du Titanic, Ottawa se tient loin du bord pour ne pas se faire éclabousser par les vagues. Pendant ce temps, bon nombre d'entre vous consultez au privé tout en payant des impôts pour un système que vous utilisez de moins en moins. Avec la trajectoire actuelle du navire, pas de quoi être optimiste. À moins d'un certain courage politique, le Titanic aura, malheureusement, de la difficulté à éviter l'iceberg. Fin de ce texte signé Pierre-Carl Michaud. Titré « Le Titanic de la santé », publié dans l'actualité édition de avril 2026.